bonjour et bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Nous en sommes à notre 9e rencontre. J'espère que ça se passe toujours bien pour vous. J'espère que vous vous êtes ajusté à cette nouvelle normalité. On va l'appeler comme ça. Donc, votre vie, nouvelle vie au temps de pandémie mondiale. Tiens, je ne pensais jamais dire ça dans ma vie, mais voilà, c'est dit. Aujourd'hui, je vous ai prévu le module 11. Donc, il y a deux modules, je dirais, qui sont ouverts cette semaine. Module 11, module 12. Je vais prendre l'heure que habituellement je consacre à chaque semaine là, lors de ces enregistrements pour vous introduire le module 11. Puis, je dirai quelques mots sur le module 12 la semaine prochaine. Peut-être une parenthèse pour vous souligner que cette semaine, au podcast FI390 Éthique et professionnalisme, j'ai publié, diffusé, en fait, c'est vendredi de la semaine dernière, que j'ai publié une entrevue exclusive. mes capsules exclusives où j'aborde avec mes anciens étudiants. Donc, j'invite des anciens étudiants à mon bureau à l'époque. Là, ce sera plus compliqué d'y recevoir à la maison. Mais j'en avais déjà plusieurs d'enregistrés. Donc, ça, c'était une rencontre avec Alexandre Côté. Alexandre, je vous invite, arpenteur géomètre. Donc, si pour vous, vous dirigez vers cette profession-là, c'est tout à fait indiqué pour vous. Mais pour les autres aussi, je dirais qu'Alexandre, sa façon d'expliquer les choses, c'est drôle parce que quand on avait ces discussions-là, je ne sais pas si c'est l'effet micro, là, mais il y avait l'impression qu'il pouvait me chuchoter puis me raconter des histoires là, qu'il a rencontrées. Puis il y a toujours ce ton-là de la confidence. Donc, je vous invite à aller écouter l'enregistrement en question. Donc, c'est toujours disponible sur le même fil audio. FI3900, le podcast, vous pouvez trouver ça là, sur toutes les plateformes de distribution. Je ne leur ferai pas de publicité, vous les connaissez. Donc, allez écouter ça tranquillement. Les questions qui sont abordées aujourd'hui sont importantes. Je dirais qu'elles sont très larges. On parle de science et société. Donc, c'est large. Science et surtout société. Mais en même temps, j'ai essayé de donner un ancrage assez précis, je dirais, à ces questionnements-là pour qu'ils vous rejoignent. Donc, des questions du type comme professionnel, c'est ici, je vois là, sur ma présentation, il y a une faute ici, je vais essayer de la corriger. À titre de professionnel en sciences et génie, on va se questionner sur votre influence sur la société. Avez-vous une influence sur la société? Est-ce que c'est votre rôle de vous prononcer sur les valeurs, sur le bien commun, sur l'environnement, sur la santé, la qualité de vie, le public, la protection du public? Est-ce que c'est à vous de faire ça ou vous n'êtes que des artisans, techniciens au service des conceptions du bien commun qui seront promues par d'autres? Autre question qu'on va aborder dans ce module, l'idée de la neutralité morale de la science. Est-ce que la science est moralement neutre, socialement coupée? Donc, il y a plusieurs façons d'articuler la science, expliquer ce qu'est la science, puis il y en a quelques-unes qui coupent la science de la société. On verra dans le module en question quels sont les problèmes qui peuvent découler d'une telle conception de la science. Et autre question dans ce module, est-ce que vous pouvez vous contenter de confier à d'autres ce genre de questions, hein? Ceux qui s'occupent des enjeux moraux et sociaux. Est-ce que vous êtes en droit de vous poser ces questions-là? Est-ce qu'on s'attend à ce que vous posiez ce genre de questions-là dans l'exercice de votre profession ou vous devriez simplement être des artisans au service des projets d'une conception du bien commun, encore une fois, pensée et conçue par d'autres? Et à ce moment-là, ça ferait de vous des êtres qui ne seraient que des serviteurs, je dirais, au service des autres. C'est le genre de questions que je voudrais aborder aujourd'hui. Donc, le rôle, la responsabilité sociale du professionnel en sciences et génie. C'est large, mais en même temps, lorsque je dis professionnel en sciences et génie, je parle de vous, là. Donc, c'est pas... c'est vous dans quelques années, peut-être. Donc, ça va de ceux qui vont exercer la profession en génie, en arpentage, en géomatique, en chimie, en sciences aujourd'hui. Je pense que c'est ça aussi qu'on fait aujourd'hui, étendre un peu le rôle de ceux et celles qui ont un certain savoir, un savoir scientifique qui prétendent pouvoir appuyer ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent sur des faits démontrés, une certaine rigueur, qui prétendent à une certaine forme d'objectivité. Donc, on parle de vous. Votre rôle à vous et vous, messieurs, vous, mesdames, qui parlez au nom de la raison, souvent. Première distinction que j'aimerais faire pour aborder ce thème, d'abord, c'est de briser, et vous allez le voir dans le module, là, je prends le temps de bien le faire, mais je vais le faire aussi dans cette introduction, de bien séparer la science de la recherche. Hein, c'est-à-dire que si on a une conception un peu trop épurée ou abstraite de la science, c'est sûr que ça sera difficile de parler des liens entre la science et la société. Donc, c'est cette distinction-là, là, pour bien basculer d'un à l'autre, je pense qu'il faut d'abord identifier ce qu'est un scientifique et ce qu'est un chercheur. Donc, un scientifique qui représenterait plutôt l'archétype du savoir qui est fini, qui est bien encané, qui est consensuel, difficilement contestable, et le savoir qui est plutôt lié à ceux qui font de la recherche, donc les vrais scientifiques, mais ceux qui construisent le savoir. Et de faire cette distinction-là, ça permet de sortir de la conception un peu abstraite qu'on a de la science avec le scientifique, et l'autre qui est peut-être celui qui représente le mieux ce qu'est vraiment la science aujourd'hui, c'est peut-être le chercheur. Donc, pour bien distinguer les deux, on va commencer par le scientifique. Alors, le scientifique, c'est celui que vous voyez dans vos émissions là, de vulgarisation préférées. Hein. C'est peut-être Découverte, c'est peut-être Génial. Il y en a d'autres là, qui aiment bien cette émission-là. Pour eux, hein, la science, c'est quelque chose qui est fini, qui est difficilement contestable. C'est plutôt un savoir qui est de l'ordre du certain, objectif, froid. Le but, c'est simplement de transmettre un savoir, de vulgariser à la limite, là, mais il n'y a pas de questionnement du savoir en soi. Dans une telle conception de la science, avec le scientifique, le savoir est complètement dépolitisé. Hein. Ce n'est pas l'animateur de Génial qui va vous expliquer les liens entre la science et la société, ni à Découverte, là, où on va vous expliquer les différentes politiques en recherche, puis comment la recherche est financée, puis comment tout ça. Là. Comment les liens entre le dernier budget fédéral, puis comment que la science est financée, puis éventuellement à quoi servira tout ça. C'est pas ce genre d'émission-là, dans ce genre d'émission-là, que vous allez avoir ce genre d'informations-là. Donc ça, c'est le scientifique, je dirais, un peu coupé, un peu abstrait. Si vous avez à le représenter, d'ailleurs, vous irez voir là, dans la présentation que je vous ai préparée, il y a un test qu'on fait systématiquement passer à des jeunes étudiants, puis on leur demande de dessiner un scientifique. Okay? Puis cette conception-là du scientifique, elle est toujours un peu caricaturale et il faudra en sortir. Surtout pour vous, là, vous êtes à la sortie de votre bac, c'est le moment de vous éloigner un peu de cette conception-là. Vous l'avez bien intégrée, maintenant, il faut être capable de l'avoir avec un pas de recul. Si on demande à des enfants de dire c'est quoi un scientifique, là, c'est toujours la même réponse. C'est un homme, évidemment. C'est un homme. Il est blanc, il a une belle moustache. Il a des lunettes, évidemment. Pourquoi pas? Il est entouré là, de matériel de science là, avec toutes sortes de béchères. Puis évidemment, lorsqu'on tente de le dessiner, il crie souvent « Eureka », comme si on découvrait la science ou le savoir de cette façon-là. J'ai rien, puis tout à coup, j'ai tout le savoir. Puis c'est un éclair de génie. D'ailleurs, le personnage, là, le blanc, le sarrau blanc, la moustache, la lunette, c'est exactement l'animateur de Génial. Là, donc, c'est pas pour rien qu'on l'a choisi. Il y a probablement la tête de l'emploi. Mais il faut sortir de cette dynamique-là pour bien comprendre ce qu'est la science aujourd'hui. Il faut peut-être plonger d'un peu plus près dans le monde de la recherche. Hein. Pour les chercheurs, si vous les croisez autour de vous, Les chercheurs, pour eux, la connaissance, elle est incertaine. Regardez la recherche là, qui se fait en ce moment en virologie, en santé publique, tous ceux qui essayent de développer des vaccins. Ah, c'est un savoir qui est loin d'être consensuel. On est là, on essaye d'aller chercher le savoir, on l'affirme, on le critique, on le défend, puis quelques mois plus tard, ben, on le critique et on le rejette. C'est comme ça en ce moment que le savoir... lorsqu'il est à la fine pointe, lorsqu'il est en avant, réel, là, concrètement, comment ça se développe, tout ça, là, c'est à travers ces incertitudes-là. Le savoir pour le chercheur, il est aussi sub-objectif. Hein, c'est pas objectif, c'est subjectif. Donc, c'est rattaché à une personne. Lorsqu'un chercheur parle de science, il ne dira pas « telle chose a été démontrée », il va dire « telle chose a été démontrée par l'équipe de M. X et Mme Y ». Donc, hein, le savoir est rattaché à une personne. Pour les chercheurs, la science est intimement liée aux politiques. Donc, discutez avec les chercheurs qui vous entourent. Là, vous allez voir qu'ils connaissent les budgets, qu'ils suivent à la lettre les déclarations. Lorsqu'on ouvre des enveloppes budgétaires pour la recherche, là, ils sont au courant de tout ça. Ils savent où va principalement l'argent et où sont les grands champs de développement. Regardez ce qui se passe en intelligence artificielle. Tout l'argent va là en ce moment. C'est pas compliqué. Là. Vous dites le mot « intelligence artificielle » puis on vous garoche de l'argent dans la face comme ça. Donc, c'est ça. Là. C'est les chercheurs qui sont à la fine pointe savent où va l'argent, connaissent le politique, hein, politique au sens large, et la conception du bien public. Où sont les principaux champs d'intérêt à développer? Évidemment, là, ils vous diront qu'ils font de la science, pour accroître la connaissance. Mais curieusement, il y en a beaucoup qui s'intéressent aux champs du savoir qui se développent, mais qui sont surtout très bien financés. C'est ce qui explique pourquoi, moi, dans mon domaine, je me rappelle à l'époque, on avait beaucoup de sous en génétique, en modification génétique du vivant. Puis tout à coup, du jour au lendemain, quand on a compris que le public n'en voulait pas vraiment, eh bien, le financement s'est mis à réduire, puis tout à coup, bon, on s'est tranquillement désintéressé, nous aussi, de ce champ de développement de la connaissance. Donc, c'est ces liens-là, le fin entre la science, la politique, les liens, les besoins sociaux, tout ça, on peut seulement les articuler quand on sort d'une conception un peu froide de la science, un peu plus caricaturale, puis qu'on saute dans le milieu de la recherche. Donc, c'est cette première distinction-là que vous avez besoin pour comprendre qu'il y a des liens entre la science, celle que vous apprenez sur les bancs universitaires ou chez vous en ce moment, et donc les liens entre la science et la société. Si vous avez juste une conception caricaturale de la science, c'est sûr que vous aurez de la difficulté à les voir, ces liens. Hein, si vous prenez seulement un manuel d'enseignement à l'université là, de chimie ou génie mécanique, c'est sûr que ces liens-là avec le politique ont été extraits, ont été effacés. Ben, c'est pas une conspiration, mais on s'est concentré sur le contenu rationnel. Mais il faut bien être conscient que ce contenu rationnel-là, hein, il est fait par des personnes avec des besoins au service de la science et de la société. Puis à la fin, on va consigner dans ces ouvrages le contenu qui est peut-être le plus objectif, le plus consensuel, évidemment. Donc, c'est cette première nuance-là là, que j'aimerais bien faire avec vous. Donc, cette première distinction entre la science un peu plus caricaturale avec le scientifique, avec son beau sarrau blanc immaculé, et le chercheur, donc celui qui se rapproche le plus de ce qu'est la science aujourd'hui, la science qui est en train de se faire, de se construire. Il y a deux mythes que nous allons explorer ensemble dans ce module. D'abord, celui du déterminisme technologique. Ça, c'en est une aussi, une façon de concevoir la science. Donc, l'idée que le progrès technologique est nécessairement un bien et de toute façon, il est inévitable. C'est la marche là, constante vers le progrès technologique. Donc, ça, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est le premier mythe. Le second mythe, c'est celui de la neutralité morale de la science. Hein, l'idée que la science n'est ni un mal, ni un bien, là, c'est surtout un outil. Donc, en prétendre qu'il n'y a aucune moralité, aucune valeur qui serait intrinsèquement liée à la science. Donc ça aussi, hein, je vais essayer de m'attarder à démobiliser ou à démonter plutôt ce deuxième mythe. Si on prend le premier, le déterminisme technologique, hein, je dirais qu'il y a deux principales prémisses là, qui se cachent derrière cette idée que le développement technologique serait impossible de l'arrêter, qui serait sans cesse en train de croître et de servir le bien commun. Il y a deux prémisses. L'idée que la science influence la société et contribue au bien commun. Donc ça, c'est la première idée. Que la science influence la société, c'est pas très difficile de vous convaincre de tout ça, là, cette réalité-là. Si vous êtes en sciences et génie, c'est probablement que vous pensez et croyez que la science peut influencer la société. Évidemment, améliorer la société, c'est peut-être comme ça qu'on pourrait le formuler. Mais ce faisant, elle est au service du bien commun. Et la réflexion là, que je vais vous proposer dans ce module, c'est de réfléchir à ça. T'sais. Lorsqu'on se met au service du bien commun, on se met au service de quelle conception du bien commun? Lorsque je me mets au service de telle technologie, quelle est la conception du bien commun qui se cache ou qui se tapisse derrière cette technologie? La deuxième prémisse, c'est celle que la société n'influence pas la science. Donc, celle-là est un peu plus compliquée, mais c'est de démontrer, parce qu'il y en a plusieurs qui pensent que la science comme ça évolue par elle-même, le savoir croît pour le savoir, puis les chercheurs font tous ces efforts là, pour la beauté du savoir et la beauté des nombres. Ce n'est pas exactement ce qui se passe. Hein, ce qu'on voit, c'est que la société, au contraire, est capable d'influencer la science par toutes sortes de méthodes, via le financement, j'en ai parlé un peu plus tôt, via les lois, les normes, donc il y a possibilité d'influencer la science. Donc c'est à travers ce deuxième mythe-là là, qu'on va explorer ce genre de questions. Hein, c'est-à-dire que si la science influence la société, donc, si c'est ce que je vais tenter de vous démontrer dans le module en question, hein, l'idée que la société influence elle aussi la société, je vous ai dit, via le financement, via les lois, les règles, les normes. Si c'est vrai, mais je vais tenter de vous démontrer que c'est vrai, mais si c'est vrai, une partie de ma démonstration, c'est de vous montrer que la science change avec la société. Hein, c'est-à-dire que la société, à une certaine époque, peut générer une certaine forme de science. Que la société, à une certaine époque, peut transmettre, même à travers la science, ce qu'elle est à une certaine époque. Peut transmettre à travers la science, pas seulement des chiffres, des faits, là, mais transmettre aussi des valeurs, une conception du monde, une conception du bien commun. C'est sûr que formulé comme ça, ça semble un peu abstrait tout ça, mais je vous invite à aller voir les exemples que je vous ai cités pour démontrer tout ça. Entre autres, il y a l'exemple de Lysenko, hein, qui à l'époque de l'URSS, puis le régime là, où on tentait le régime communiste à l'époque. À quoi ressemble la science dans une société communiste? Hein, si on accepte l'idée que la société influence le cours de la science, est-ce que ça se peut qu'on puisse trouver des traces de cette société à l'intérieur même de la science? L'affaire Lysenko, c'en est un bel exemple. Hein, vous irez voir dans la science de l'époque, promue, diffusée à l'époque dans cette société, il y a des traces évidentes de l'époque. Là, on parle au lieu de parler de génétique mendélienne, on parle de génétique prolétarienne, même dans le langage, je dirais que ça reflète aussi l'idée de l'époque. On donnait moins de place aussi, tandis que c'était une société qui était plus de l'ordre de la force du commun. On essayait de démontrer que le gène, qui était plutôt individuel, avait moins d'influence que la force contraignante, les forces environnementales, la force du nombre. Hein, tout ça, là, ça avait plus d'importance que le gène en soi. Donc, cette idée-là là, plaisait bien au système en place, à la société en place. Puis curieusement, cette façon-là de concevoir la génétique s'est trouvée une place, y compris dans les modules dans les volumes là, qu'on donnait à l'époque. Imaginez, là, vous êtes là-bas à cette époque et au lieu de vous donner un livre de génétique mendélienne, ben, on a de la génétique prolétarienne de l'hérédité, puis on vous enseigne. Oui, ça se rapproche de la génétique mendélienne, mais en même temps, il y a des concepts qui sont tassés, qu'on va privilégier. On va plutôt privilégier d'autres concepts qui se rapprochent plus des idéaux, des partis ou même des idéaux, des idéaux politiques de l'époque dans cette société. Donc ça, c'est un des exemples que je vais vous donner pour vous démontrer tout ça. Plus près de vous, peut-être, hein, il y a l'exemple de l'affaire Turing. Donc, vous connaissez Turing, qui est un mathématicien hors norme. Peut-être avez-vous vu le film sur Alan Turing. Donc, c'était un mathématicien hors norme. On parle d'un mathématicien dans les années 30-40. Il avait une réputation hors pair à l'époque. Donc, on est en 39-45. Il va être impliqué dans les premières conceptions même de l'intelligence artificielle, de la programmation. Donc, vous voyez, là, un visionnaire. Mais c'est un personnage qui, plus tard, ben, on va découvrir qu'il est homosexuel. Puis tout à coup, hein, donc dans une société qui est plus trop réfractaire à l'homosexualité à l'époque, ce trait de caractère-là d'Alan Turing, tout à coup, va nuire à sa carrière scientifique. Donc, comment on s'est arrangé, comment une société s'est arrangée pour faire taire, mettre à l'écart un des plus grands esprits peut-être de notre siècle? Pourquoi? Ben, en raison des valeurs, ou en raison de ses valeurs, ou de sa conception de ce qu'est un scientifique, de ce qu'est un homme, de ce qu'est la sexualité. Donc, tout ça, là, ce sont des traces qu'on peut trouver dans l'histoire de la science. Si vous voulez d'autres traces de à quoi ressemble une société, puis comment on en trouve des traces dans les ouvrages que vous consultez, vous irez voir, la classification des espèces de Linné. Si vous avez fait un cours de biologie, vous avez vu ça, là, cette classification des espèces-là. Toutes les espèces du vivant, tout ça est bien organisé, hein, c'est la classification de Linné. Mais vous irez voir comment il classifie les hommes. Hein. Les hommes, pour Linné, il les qualifie en 4 grands groupes. Mais là, ici, dites-moi là, que ce n'est pas un reflet de l'époque. Là. 4 grands groupes, les Americanus, en gros, là, c'est probablement les populations autochtones qu'il regroupe sous un terme qui est « Americanus ». Il les qualifie de 3 termes. Ils sont rouges. Ouais, ils sont rouges, colériques et droits. L'autre groupe, les Européens, qui sont blancs, sanguins, hein, musculaires. On dirait une description de commentateur, d'animateur de match de hockey là, qui résume une population là, à quelques traits de caractère. Les troisième grand groupe pour Linné, les Asiaticus, qui sont jaune pâle, mélancoliques et rigides, peut-être, si vous voulez les résumer comme ça. Et finalement, les Affaires, qui sont noirs, qui sont flegmatiques et décontractés. Voilà comment on peut résumer une bonne partie de la planète en quelques mots. Donc, vous voyez, ça aussi, ça laisse des traces. C'est pas mal intentionné de sa part. Il essaie de qualifier, mais en même temps, sa qualification est influencée par sa conception de ce qu'est un homme, de ce qu'est la vie, de ce qu'est le politique, de ce qu'est le bien commun. Donc, vous voyez, il y a des traces qui se rendent jusqu'à ce genre de description. Dernier exemple que je vous citais, que je vais vous citer dans le module, vous irez voir, j'en dis un peu plus. C'est comment on décrit, par exemple, aujourd'hui même, là, prenez n'importe quel livre de biologie de la reproduction, puis allez voir comment on décrit tout ce qui est de gamètes féminines et les gamètes masculines. Vous allez voir que le langage, parfois, est teinté d'une drôle de conception de ce que sont les hommes, surtout en ce moment-là, hein, la fluidité des genres. Dans les ouvrages, on voit qu'on n'est pas encore rendu là. Hein, dès qu'on parle de l'ovule, On va dire que, bon, l'ovule, il est passif, il est là, là. Il se range, il prépare le nid, puis finalement, il attend quasiment son prince charmant. Puis effectivement, le prince charmant est plutôt de l'autre groupe. C'est le spermatozoïde qui est fort, vigoureux, qui va combattre contre tous les autres spermatozoïdes. Puis à la fin, il y en a un qui remporte la victoire, puis qui peut aller le pénétrer l'ovule. Donc, vous voyez, c'est un langage qui, bon, c'est pas mal intentionné, des chercheurs qui tentent de vulgariser, mais en même temps, ils font la promotion d'une certaine conception. Ici, c'est conception de la femme, conception des rapports homme-femme, je dirais même. Et là, ça laisse des traces jusque dans le langage. Quand vous allez essayer de comprendre c'est quoi la physiologie de la reproduction même, je dirais que ça sera teinté tranquillement, ça passera dans le langage et même la vulgarisation. Donc ça, c'est les quelques exemples que je vous démontrerai pour vous démontrer que la science n'est pas neutre. Hein? La science, elle est porteur de plusieurs valeurs, d'une conception du monde, d'une conception de l'homme, d'une conception du bien commun. Et ultimement, on ne parlera pas de neutralité morale. La science, en fait, c'est plus ça que je vais essayer de démontrer dans le module. Mais je vais surtout essayer de vous démontrer que en choisissant la science, en choisissant les sciences et le génie, vous avez décidé d'être engagé socialement et moralement. C'est-à-dire que vous avez décidé de vous mettre au service d'une science, d'une technologie qui, elle, est chargée de certaines valeurs, de certaines conceptions du monde. Si vous décidez en ce moment même de vous investir dans le domaine de la santé, la médecine par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose de plus rationnel que la médecine, d'efficace que la médecine? C'est une science qui est démontrée depuis plusieurs dizaines, sinon centaines d'années, la médecine. Mais en vous mettant au service de la médecine, qui est une science, bien, ultimement, vous allez vous mettre au service d'une certaine médecine. Hein, une médecine qui sera au service, peut-être, je dirais qu'il y a deux grands courants dans la médecine. La médecine du cure, donc tout ce qui est le volet là, curatif, pharmacologique, virologique, tout ça, là, ça c'est tout. La médecine du cure, où on tente de résoudre ou de régler les problèmes. Et un autre type de médecine qui est plus de l'ordre du care, donc qui est plus de l'ordre de la prévention des problèmes ou de l'ordre de l'attention à celui, hein, la personne, le patient qui souffre de certains problèmes. Donc, vous voyez, se mettre au service d'une science, se mettre au service ici de la médecine, c'est pas unidimensionnel. Vous allez vous mettre au service d'une certaine conception de la médecine si vous choisissez cette voie. Même chose en sciences et génie. Hein, vous allez vous mettre au service, sciences et génie, c'est général, mais lorsque vous allez choisir un employeur, un domaine où vous allez exercer votre profession, vous allez vous mettre au service de certaines valeurs, de certains projets. Et ces projets sont au service d'une conception du bien commun. L'exemple que je vous donnais dans le module, si on prend le domaine des transports, hein, si vous vous mettez au service d'un projet, et le projet en question, c'est de construire un troisième lien, ici à Québec, tiens, pour prendre cet exemple, vous vous mettez au service d'une conception de ce qu'est la vie bonne en société à Québec, une certaine conception de l'urbanisme, une certaine conception de quel est le bien commun à viser ici. Même si vous n'avez pas fait intentionnellement ou consciemment ce choix, mais en vous mettant au service, vous vous mettez au service de ça. Si vous mettez plutôt au service d'un tramway, bien, vous vous mettez au service d'une conception du bien commun ou de la vie bonne à Québec qui est différente de l'autre. Et là, ici, ce n'est pas pour juger l'une ou l'autre. Hein, c'est pour vous démontrer que les choix que vous allez faire, même si vous maîtrisez une certaine science, ultimement, votre science sera au service. Votre belle personnalité, ce que vous êtes, votre entité, ce que votre mère aime tant chez vous, vous allez mettre votre belle tête au service d'un employeur, au service d'une technologie, d'un projet. Et ultimement, ce projet sert une certaine conception de la vie bonne, sert le bien commun, une conception de ce qu'est le bien commun, sert à promouvoir certaines valeurs plus que d'autres. Ici, on pourrait mettre l'opposition environnement, droits individuels. Donc, tout ça, là, c'est des choix, ultimement. Ça a l'air technique, les choix que vous êtes en train de faire, un domaine technique, mais ultimement, à travers vos projets que vous allez choisir, il y a un choix moral et social qui est en train d'opérer. La morale, et ce sera, je dirais que ce sera la principale partie de la démonstration de ce module, c'est que vous démontrez que la morale, c'est moi qui ai l'air, au début du cours, là, vous pensiez que c'est moi qui allais vous faire la morale, mais moi, ma prétention, c'est que c'est vous qui nous faites la morale. C'est vous qui avez le pouvoir aujourd'hui, dans les choix que vous allez faire, dans le choix de votre employeur, par exemple, ou dans le choix des projets pour lesquels vous allez investir temps et énergie, c'est vous qui nous faites la morale. C'est vous qui, en choisissant tel employeur, tel projet, vous allez choisir de vous mettre au service d'une certaine conception du bien commun et de certaines valeurs. La morale, elle est là. Elle est cachée au cœur même de la science et des technologies que vous allez développer. Elle est au cœur des sciences et des technologies auxquelles vous allez bientôt contribuer. Ce qui fait de vous des acteurs d'abord moraux, hein? C'est vous qui nous faites la morale. Vous avez l'impression que votre science et votre profession ne promeuvent pas des valeurs. Faites attention, regardez bien au service de qui vous allez choisir de donner votre corps, votre énergie, votre tête. Posez-vous la question, est-ce que je partage les mêmes valeurs que mon employeur? Est-ce que je partage, je suis en train de contribuer, l'exemple que je donne en classe, ceux qui sont en train de participer à la conception et au développement et à la construction d'un mur là, qui séparera le Mexique des États-Unis. Bien, une conception politique, une conception du bien commun qui est derrière tout ça. Donc, si vous travaillez au service d'un tel projet, bien, vous vous mettez au service de ces valeurs et de ce projet politique. L'année dernière, il y a une étudiante qui me disait, moi j'ai décidé de travailler pour une compagnie qui produit du tabac. Ça ne veut pas dire nécessairement que j'assume les valeurs de cette compagnie de tabac. Mais peut-être que tu ne les assumes pas, mais en même temps, tu te mets au service de cette compagnie-là. Tu es en train, tu as une vie à vivre, tu as ton beau cerveau à donner à quelqu'un, tu as décidé quand même de le donner à cet employeur-là. Là, c'est pas comme s'il y avait un problème d'employabilité là, dans vos différents champs d'expertise. Donc, il y a cette question-là là, que j'essaie d'explorer avec vous. Hein, il y a certains sociologues qui sont encore plus tranchants que moi, là, c'est-à-dire qu'ils disent que les ingénieurs, ceux et celles qui ont une formation en sciences et génie, sont des activistes sociaux. C'est peut-être eux qui ont le plus de pouvoir. On pense que les activistes sont de gauche avec des pancartes, puis on se promène dans les rues, mais ceux qui transforment la société, c'est souvent ceux et celles. En tout cas, sciences et génie, c'est une grande partie de ceux et celles qui ont un réel pouvoir sur la transformation, la création de la société. C'est à travers vos gestes, à travers vos différents emplois, les différents projets que vous allez servir et desservir, que vous pouvez transformer le monde. Et à ce titre, vous êtes des activistes, c'est ce que Calon et Love veulent dire, les deux auteurs à l'étude. C'est ce qu'ils veulent dire. Hein. Vous êtes en train, par vos actions, de mettre à l'œuvre certaines valeurs sociales. Pourquoi vous parlez de tout ça? Parce qu'il y a des conséquences néfastes, je dirais, à ceux et celles qui ne prendraient pas le temps de réfléchir à tout ça. Là. C'est-à-dire que ce qu'on constate sur le terrain, c'est des professionnels qui nient leur rôle social, hein, qui se conçoivent comme étant des techniciens peut-être qui sont au service d'un employeur. Moi, je suis là pour servir mon employeur. Puis mon employeur me dit que tel projet, il fallait que ça soit développé. Puis je le fais bien. Hein, mais on refuse de réfléchir à ce qui se cache derrière ce projet-là. Quoi? Oui, je vais participer à ce projet-là, mais à quoi servira ce projet-là? Et éventuellement, ce projet, est-ce que ça correspond à mes propres valeurs ou au contraire, est-ce que ça les nie? Pourquoi vous parlez de tout ça? Parce que les professionnels ont tendance aussi à se concentrer uniquement sur les solutions techniques, hein? Refuser de réfléchir, de tenter, de participer au désir de trouver des solutions à des enjeux qui sont également sociaux. On a besoin aussi de vous, lorsqu'il y a des enjeux sociaux, pour essayer de trouver des solutions. Hein? Vous avez une perspective importante, intéressante, pertinente pour tenter d'orienter le développement social. Pourquoi vous parlez encore une fois de tout ça? Parce que, c'est ça, les professionnels refusent de réfléchir aux dimensions éthiques, aux valeurs qui se cachent, encore une fois, derrière la science, la technique que vous maîtrisez, en tout cas de plus en plus. Et surtout, et c'est peut-être ça, je dirais, mon objectif le plus important, je dirais, de cette démonstration-là, dans ce module, c'est le professionnel a plutôt tendance à se concevoir comme un simple exécutant. Hein? Et pour un prof de philo, je dirais qu'une question qui m'obsède, c'est celle de la liberté. Donc, vous permettre, par quelques questions, réflexions, de sortir de ce statut de simple exécutant, de ces petits moutons là, qui ne font que suivre le groupe, qui ne font qu'exécuter, si on revient à une pression d'autorité, qui ne font qu'exécuter les ordres qu'on leur donne, que ce soit leur patron, leur client. Donc il y a cette réflexion-là, là, être capable de prendre un pas de recul sur ce que vous êtes, pas seulement être des simples exécutants qui vous mettez au service de n'importe qui, de n'importe quel projet, mais au contraire, poser quelques questions supplémentaires pour décider de vous impliquer, de vous engager dans des projets qui font du sens pour vous, hein, qui représentent vos valeurs, ce que vous êtes, qui représente le monde dans lequel vous aimeriez vivre éventuellement. Hein? C'est deep, mais c'est ça aujourd'hui que je vous propose comme réflexion parce que vous en êtes là, vous en êtes à la fin, je dirais, de votre parcours, troisième année, quatrième année. C'est ce genre de questions-là qu'il faut que vous vous demandiez. Vous êtes en train d'acquérir une formation, une expertise, vous allez vous mettre au service, mais au service de qui? Au service de quoi? Quelles sont les valeurs qui se cachent derrière les projets auxquels vous allez participer? Quelles sont les valeurs défendues, promues par votre employeur? Votre futur employeur, vous avez décidé de vous impliquer dans tel domaine, quels sont... J'ai décidé de m'impliquer dans le domaine du développement des routiers, mais il y a des valeurs qui se cachent derrière ça. J'ai décidé de m'impliquer dans le domaine pharmaceutique, mais il y a des valeurs qui se cachent derrière ça. Génie mécanique, génie environnemental, posez-vous ces quelques questions, vous allez voir qu'il n'y a pas seulement un champ technique, mais il y a des valeurs qui se cachent derrière chacun de ces champs. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez promouvoir au cœur même des sciences et du génie? Et là, ce n'est pas abstrait, c'est le vôtre. Le science et génie, là, bientôt, c'est vous. Donc, quelles sont les valeurs que vous souhaitez promouvoir au cœur même des sciences et génie? Et que ferez-vous pour transformer, influencer les sociétés de demain? Vous en avez le pouvoir, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais vous, par vos choix, vous pouvez décider de transformer, d'influencer la société dans laquelle bientôt nous allons vivre. C'est les quelques questions profondes que je vous ai réservées dans ce module. Évidemment, c'est plus réflexif. Il y a une réflexion, je dirais, méta. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ce genre de pas de recul. Donc, réfléchir non seulement à la science, à la technologie, donc ce pas de recul-là, mais prendre un pas de recul sur vos propres choix, ceux qui vous ont mené jusqu'à ce que nous nous rencontrions aujourd'hui à l'Université Laval dans ce cours à distance. Donc, quels sont les choix qui ont précédé tout ça? Quel est le sens de tout ça? Pourquoi avez-vous décidé d'acquérir ces compétences, ce savoir? Et ultimement, vous allez vous mettre au service, mais au service de qui et de quoi? Les objectifs de ce module, ça reste des objectifs qui sont mesurables. J'essaie toujours de le faire, même si les thèmes sont plus ambitieux, plus larges, les objectifs que je vous donne sont mesurables. Ultimement, j'aimerais que vous soyez capable de m'expliquer c'est quoi le déterminisme technologique et c'est quoi la neutralité morale de la science. J'en ai fait un court résumé aujourd'hui, mais si vous allez consulter le module en question, vous irez voir que les démonstrations sont relativement simples, les définitions, évidemment, sont assez simples aussi si vous tentez de comprendre ce que sont le déterminisme technologique et la neutralité morale de la science. Deuxième objectif, être capable de dénoncer les principaux arguments permettant de déconstruire ces mythes. Donc, vous irez voir dans la présentation, je prends le soin de démolir ou de désarticuler, je dirais, ces deux principaux mouvements que sont le déterminisme technologique et neutralité morale de la science. Ensuite, comme objectif, être capable d'identifier les valeurs idéaux, les projets sociaux, les projets environnementaux promus qui se cachent derrière les projets scientifiques et techniques auxquels vous allez contribuer. Donc ça, c'est un objectif qui est facilement mesurable par quelques questions. Je pose souvent ce genre de questions-là. Vous irez voir dans les forums, je vous demande ça. Quelles sont les valeurs? Nommez-moi un projet scientifique auquel vous allez participer. Un vrai projet, là, concret. Là. Puis éventuellement, êtes-vous capable d'identifier les valeurs qui se cachent? Mais qui se cachent? Ils ne se cachent pas si longtemps que ça, là. Ça va pas si difficile à trouver, mais posez quelques questions, vous allez voir que les valeurs promues qui se cachent derrière ce projet technologique ou technique, vous allez voir qu'ils sont plutôt aisés à identifier. Et finalement, dernier objectif de ce module, être capable de reconnaître les conséquences sociales découlant de l'activité du professionnel, de comprendre le rôle de ce dernier dans ce contexte. Donc voilà, ce sont des questions cruciales, importantes, qu'un professionnel en sciences et génie doit se poser. J'ai un savoir, je me mets au service de qui et pour quelle raison. J'ai décidé de consacrer ma vie, sinon les deux prochaines années de ma vie, à un projet. Quelles sont les conséquences sociales qui peuvent découler de ma contribution à ce projet? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Ou si ça ne correspond pas à mes valeurs, qu'est-ce que je fais ici? Hein? Pourquoi pas donner deux années de ma vie à d'autres? Hein? C'est ce qui vous attend dans ce module. Je vous rappelle en conclusion qu'il y a plusieurs et quelques dates importantes. Maintenant, la remise du TP2 dans 6 jours. On commence à être occupé, là, Valérie et moi. Là. Attendez-vous pas à ce qu'on travaille au même rythme que vous dans la prochaine semaine. Je vous ai offert à plusieurs reprises de vous aider, plusieurs équipes qui m'ont fait signe à Valérie et à moi. Là. Donc, on est allé jeter un coup d'œil, on a fait des rétroactions. Pour les autres, 6 jours d'avis, n'hésitez pas à nous écrire, nous faire des demandes, mais en même temps, on ne peut pas vous faire de grandes promesses. Mais on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de vous aider d'ici la date de remise. Je vous rappelle que l'examen est dans 13 jours. C'est le moment, si votre étude n'est pas entamée, c'est le moment. Donc, si vous avez fait tout ce qui vous avait été demandé à chaque module, je dirais que votre étude est déjà très bien avancée. Si vous avez fait tous les questionnaires, si vous avez répondu à tous les forums, si vous avez suivi la démarche à suivre, là, je vous fais à chaque semaine un plan de travail. Votre étude est avancée, mais il faudra réviser et l'examen sera dans 13 jours. Je dirai plus sur le contenant et le contenu de l'examen la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, ce que je vous réserve, révision. Donc, on reviendra sur le cours, sur l'ensemble des modules, Je vous ai prévu quelques exercices peut-être à faire en groupe sans en dire trop, mais il y aura un exercice de récapitulation des différents modules du cours. On parlera, oui, de l'examen qui s'en vient. Je vous donnerai quelques informations sur les instructions de l'examen. Et je me réserve évidemment la dernière partie du cours pour conclure en bonne et due forme et vous dire adieu. On dira ça la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite, une excellente semaine. Soyez courageux, il reste une semaine, ça passe vite. Il reste deux semaines plutôt. Il reste encore quelques belles journées de travail. Assurez-vous de vous rafraîchir au besoin. On annonce un peu de très grande chaleur. Hydratez-vous, prenez soin de vous, lavez-vous les mains. Puis voilà. Allez, bye bye.